Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1976, François Le Lyonnais était invité par Roger Pilaudin à dialoguer avec l'écrivain Pascal Lainé au sujet de l'ouvroir de littérature potentielle qu'il avait fondé 16 ans plus tôt avec Raymond Queneau. En présence d'un public, au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio, il avait raconté l'histoire de la fondation de l'Oulipo et même sa préhistoire, discuté de la part de l'humour inhérente à ses activités, de son esprit de spécialisation ou encore de la fondation des enfants de l'ouvroir, les différents zoo expo alors en vie, à savoir l'Oumupo pour la musique, l'Oupimpo pour la peinture ou encore l'Oulipopo consacré aux romans policiers. Où l'on apprenait entre autres que l'Oulipo ne garantissait pas l'inspiration, qu'il était multivoque, fermement opposé au hasard, que l'Oulipien pouvait très bien ne pas être un écrivain, mais où étaient néanmoins évoqués quelques exemples d'œuvres littéraires oulipiennes célèbres. Bref, pour qui aurait envie de comprendre ce qu'est l'Oulipo, le dialogue qui va suivre constitue un bon début et donne aussi un aperçu de la personnalité singulière de son président fondateur. Le tout s'ouvrait par la lecture d'un poème oulipien s'il en est, signé Albert Marie Schmitt, celui des membres qui inventa le nom même d'Oulipo. Tendez l'oreille, ce poème est composé d'une suite de 5 tercets et il faut pour en goûter toute la saveur se rendre attentif aux syllabes par lesquelles chacun des vers se termine.
Lorsque la hulotte ulule,
je mourris pile dans mon lit.
Puis j'évoque sur mon pipeau
un chinois vêtu de pilou qui trempe à plus de 1000 lits.
3 poils de martre dans un pot.
Pour mieux voler, je ne sais où.
Vers un archange mal poli.
Méditant les trous d'un drapeau.
Tandis que Tintin et Milou,
las de voir le temps faire un pli,
prennent refuge à l'Oulipo.
François Le Lyonnais, mathématicien et conseiller scientifique, président fondateur de l'Oulipo, et Pascal Lainé, prix Goncourt 1975 pour La Dentelière, vont nous faire découvrir l'Oulipo. Oulipo et Ouixpo, François Le Lyonnais.
Normalement, si les choses s'étaient passées normalement, Dieu, après s'être reposé le 7e jour, aurait dû créer l'Oulipo le 8e. Mais par suite d'une distraction, il ne l'a pas fait, et il a fallu attendre un certain nombre de millénaires pour arriver à cette naissance. Toutefois, avant d'en arriver à l'Oulipo actuel, il y a déjà des précurseurs de l'Oulipo dans l'Antiquité, il y a surtout au Moyen-Âge, qui ne connaît dans un public lettré comme celui qui est dans cette salle, les rhétoriqueurs. Beaucoup plus près de nous, Raymond Roussel également. Et alors parmi de grands étrangers, Swift, Lewis Carroll, Klebnikov, etc. Toutes ces productions ont un caractère très beau, mais empirique. Avec l'Oulipo, c'est le niveau scientifique qui a été atteint, enfin que nous espérons avoir atteint. Maintenant, après cette préhistoire de l'Oulipo, un mot de sa proto-histoire, c'est-à-dire de ce qu'était l'Oulipo du temps où il n'était pas encore créé, mais de ce que faisaient certains, comme par exemple votre serviteur et Raymond Queneau. Disons que je pensais à ce qui est devenu l'Oulipo depuis une 60aine d'années. Raymond Queneau, depuis peut-être un peu moins, mais depuis très longtemps aussi. C'est notre rencontre en 41, qui a commencé à faire sortir l'étincelle. Nos conversations, j'en parlerai pas plus parce que nous en aurons un écho dans la discussion avec Pascal Lainé. Le fait que nous avions commencé à faire des travaux, je citerai le plus ancien, je crois, qui est vraiment oulipien, c'est ce sonnet sans verbe, ni substantif ni adjectif, que j'ai fait en 1946, qui a été publié en 1946. Une intersection de Corneille et de Brébeuf en 1958. Et le premier travail qui est presque contemporain de l'Oulipo, ce sont les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, mais je le montre de loin. Nous ne sommes pas à la télévision, mais vous voyez quand même ce que sont ces 100 000 milliards de poèmes. Et si certains d'entre vous souhaitent voir comment, avec 10 sonnets, je vous rappelle qu'un sonnet contient 14 vers en général, comment on peut faire 100 000 milliards de poèmes, vous en aurez l'explication ici. Voici pour la proto-histoire. La naissance, et maintenant je vais abréger pour que nous puissions discuter un petit peu de ce qu'a fait l'Oulipo. Eh bien, il est né dans une décade, à Cerisy-la-Salle, une décade sur Raymond Queneau, en septembre 60, c'est-à-dire depuis environ 16 siècles. Pourquoi je dis 16 siècles ? Parce que dans la terminologie de l'Oulipo, une année de l'Oulipo est à peu près équivalente en qualité à un siècle de civilisation ordinaire. Pourquoi ce nom d'Oulipo, qui est l'abréviation d'ouvroir de littérature potentielle, c'est un nom qui nous a été donné par un de nos membres maintenant décédé, Albert-Marie Schmitt, qui, de ce fait, nous raccrochait au collège de pataphysique. Ouvroir de littérature potentielle. Je passe sur les premiers travaux, les deux premiers manifestes. Au début, l'Oulipo avait l'intention, Raymond Queneau et moi avions l'intention de rester dans la clandestinité pendant tout ce qui nous restait de vie à faire. Nous tenions à être tranquilles, nous ne tenions pas à ce qu'on parle de nous. Et notre cirque devait travailler dans le silence. Et puis, nous avions quand même autour de nous, nous étions une quinzaine, nous sommes maintenant près d'une vingtaine. Un beau jour, nous sommes rendus compte que nous étions un peu deux égoïstes, Queneau et moi. Nous avions des jeunes avec nous dont les talents méritaient d'être un peu connus. Et nous sommes sortis petit à petit de la clandestinité. Un article dans Le Monde, ce livre, Oulipo, la littérature potentielle, vous voyez sans doute une machine à écrire qui pense à quelque chose. Je ne vous dirai pas à quoi elle pense, mais vous pourriez le savoir en lisant ce livre. Finalement, cette sortie de la clandestinité a fini par devenir beaucoup plus publique, jusqu'au jour où la mauvaise action consistant à nous faire sortir de la tranquillité se termine aujourd'hui par la faute de Pilaudin. Et je crois que nous pouvons maintenant passer, peut-être, cher Pascal Lainé, à une discussion. Vous avez certainement...
Moi, je suis frappé, je pense que beaucoup de gens seront frappés comme moi. Je suis frappé par une espèce de contradiction entre le contenu de ce que vous dites et le ton. Le contenu, je me réfère à un de vos propos. Vous parliez d'une ambition scientifique ou systématique. Je ne sais plus exactement quel est le terme que vous aviez choisi.
Les deux.
Et le ton, lorsque, par l'excès de certains qualificatifs, manifestement, vous semblez être du côté de la plaisanterie, d'une certaine bonne humeur. Vous avez parlé de cirque.
Nous avons un très fort goût pour le canular. Oui. Mais nous le partageons avec quelques autres personnalités dont vous connaissez tous ces noms, comme Bourbaki, par exemple. Un congrès Bourbaki, eh bien, c'est une pluie de jeux de mots dans le genre d'Alma Vermeaux, d'obscénités, de plaisanteries de toutes sortes. Il en sort quand même certains travaux mathématiques. Eh bien, mutatis mutandis, nous pensons, et vous pourriez constater que vous avez dans l'histoire de toutes les activités de la pensée et aussi de la littérature, naturellement, cette combinaison de l'esprit du canular, par exemple, et de l'esprit scientifique. Prenez, si vous voulez, Lewis Carroll, qui a fait une œuvre qui a une valeur littéraire et qui, en même temps, qui met de l'esprit scientifique dans cette valeur littéraire. Je connais peu d'écrivains qui, comme Lewis Carroll, dans Sylvie et Bruno, indiquent comment fabriquer une bouteille de Klein, c'est-à-dire de la topologie à quatre dimensions, en cousant des mouchoirs bout à bout. Alors je crois que c'est compatible.
Oui, je ne conteste absolument pas cela.
Nous donnons peut-être un peu plus au canular que vous l'auriez souhaité.
Ah, ça nous refait. Ah non, ce n'est pas non plus ce que je veux dire. On peut aussi se poser la question de savoir si le canular vient en quelque sorte dans le cadre d'une réflexion à ambition scientifique et quelque peu sévère dans son premier propos. On se demande si le canular ne vient pas en quelque sorte comme une sorte d'échappatoire, ou bien s'il fait partie du propos lui-même.
Je crois que c'est assez consubstantiel, en effet, à notre esprit. Si vous saviez le nombre de scientifiques qui ont le goût de la plaisanterie, Mais c'est incroyable. Je pourrais remplir non pas une heure de dialogue, mais plusieurs heures de dialogue, d'anecdotes sur des plaisanteries ou des jeux de mots venant de prix. Je n'ai pas de prix Nobel de mathématiques, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais de physique et des plus hauts esprits. Je pense même, non, c'est pas tellement une échappatoire qu'une autre manière de dire les choses et de manifester certainement la bonne humeur que nous éprouvons à créer quelque chose. C'est vrai.
Pascal Lenné.
Je suis si peu en désaccord avec vous, je le dis tout de suite, que je considère au fond qu'il y a dans le canular quelque chose qui manifeste une certaine liberté par rapport aux données, par rapport au réel, par rapport au prosaïque, qui est tout ensemble, et là ça m'amène à une autre question, qui est tout ensemble de l'ordre, si vous voulez, de la réflexion scientifique et de la création poétique. Et ça m'amène donc à cette question, je crois que beaucoup de gens se la posent en même temps que moi, c'est cette espèce d'alliance que vous faites, qui est manifeste dans votre propos jusqu'à présent, entre le scientifique et le littéraire.
Oui.
Alors, moi, je vous questionne là-dessus, puisque j'ai été élevé dans une famille qui est sur le modèle, je crois, de bien d'autres, où on donne aux enfants à choisir entre des études scientifiques ou des études littéraires. Et je crois que nous vivons dans une société qui respecte encore pleinement cette espèce d'antinomie dont, justement, il serait peut-être bon ce soir de révéler les limites.
François Le Lyonnais.
Je suis bien de votre avis. Écoutez, si nous prenons notre cofondateur Raymond Queneau, et si vous me prenez moi-même, et d'autres membres de l'Oulipo, vous trouverez cet esprit, qui est le même chez tous, vraiment, de fuir l'esprit de spécialisation. Ça, c'est très fondamental. La différence, les deux cultures, nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il doit y avoir une profonde synthèse entre ces deux cultures. Et cela apparaît, je crois, dans le style et dans la plupart des travaux même de l'Oulipo. Alors, on pourrait peut-être, à côté de la contestation de l'esprit de plaisanterie, que vous n'avez pas faite d'ailleurs, c'est d'accord, on pourrait peut-être aussi nous demander pourquoi nous accordons une telle importance à de l'acrobatie littéraire et verbale. Nous avons quelques très grands acrobates littéraires.
Je m'excuse de vous interrompre, mais là, je ne suis pas tout à fait dans mon propos, moi.
Alors revenons-y.
Mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette question du caractère éventuellement scientifique ou de l'incompatibilité, au contraire, avec toute espèce de théorie scientifique, disons, de l'objet littéraire.
Oui.
Et une des choses qui me paraissent importantes dans l'idée d'une théorie scientifique, c'est qu'elle est productrice.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir d'une théorie, on peut susciter des expériences, des phénomènes, créés même quelquefois dans le concret par le truchement d'une technique quelconque.
Oui.
Alors, est-ce que vous pensez, dans le cadre de l'Oulipo, justement, qu'à partir d'inventions théoriques, il y a une possibilité de susciter des œuvres?
Ça, c'est la question fondamentale.
C'est trop tôt, alors.
Oui. Non, c'est au contraire, parlons-en maintenant. C'est une question que nous nous sommes même posés à nous-mêmes, et au fond, la réponse, nous nous la sommes donnée, nous prouvons le mouvement en marchant. En effet, on peut se demander s'il est possible de créer artificiellement des structures, des contraintes, des formes, il n'est peut-être pas nécessaire de préciser le sens exact de ces mots qui se rejoignent, s'il est possible, en tout cas, de susciter des schémas artificiels qui puissent permettre ou accueillir des œuvres de qualité. Eh bien, c'est
Là, je vous interromps
encore. Oui, hypothèse de travail, en tout cas.
Parce que je voudrais là introduire une petite différence entre la notion de forme qui permet d'accueillir une œuvre, par exemple la forme sonnette.
Ah oui, j'ai bien dit les deux, c'est vrai.
Et la notion, disons, de forme ou de structure, enfin, en un sens, disons, extrêmement appauvri.
Oui.
J'entends pas cela au sens mathématique, bien
entendu. Non, bien.
Mais enfin, peut-être sur le chemin tout de même d'une définition de type mathématique, c'est-à-dire quelque chose qui permette de produire. Qui permettent de produire de son propre fond. Parce qu'évidemment, entre la forme et puis l'œuvre, il y a l'écrivain. Et je crois que c'est au fond cela la question que je suis en train de me poser. C'est dans quelle mesure l'invention d'une forme particulièrement féconde et particulièrement propre à des développements permettrait à l'écrivain de se reposer en quelque sorte sur sa théorie, qu'elle vienne de lui ou qu'il l'hérite d'ailleurs.
Oui.
Et je vais vous poser au fond la question de l'inspiration.
François Le Lyonnais.
Eh bien, je crois que nous restons en deçà de la réponse. L'invention du sonnet, par exemple, eh bien, a permis de faire une quantité effrayante de sonnets sans valeur, quasi automatiques, faits par des versificateurs. Et puis elle a permis de faire quelques beaux sonnets. Eh bien, je crois que forme, structure, contrainte, enfin, peu importe la distinction, et en effet, structure est à prendre dans un sens voisin, finalement, du sens mathématique, sinon complètement identique. Je crois que les inventions que Loulipo a faites, et surtout celles qu'il vise à faire, il ne se préoccupe pas de répondre à votre question. Il pense que, dans certains cas, il permettra de faire une sorte de littérature automatique et sans valeur. Mais c'est avec les mêmes formes qu'on pourra faire également des œuvres de qualité. Tout dépend de l'inspiration. Nous ne garantissons pas l'inspiration et nous ne donnons pas des formes qui donnent de l'inspiration. Celui qui a inventé, par exemple, l'alphabet, eh bien, vous auriez pu lui poser la question. Il vous aurait répondu, vous pouvez vous servir des lettres pour faire des mots et des mots pour les assembler comme vous le voulez. Pour faire autrement dit, des œuvres simplement mécaniques et enfin, en quelque sorte sans intérêt, ou des œuvres inspirées. Nous restons en dehors de cela. Nous nous en désintéressons d'une certaine manière, un petit peu, si vous voulez, comme les fabricants de pianos se désintéressent de ce que devient leur piano ensuite. On souhaite que des œuvres de génie soient jouées sur ces pianos, que de très belles partitions soient mises sur le piano et que de très bons exécutants jouent. Mais nous fabriquons le piano. Encore, pensons-nous que c'est un moyen, parce que quand même les compositeurs ont besoin qu'il y ait des exécutants et des pianos. Mais nous sommes donc en deçà de l'inspiration. Je ne sais pas si je vous ai répondu, peut-être pas donné satisfaction, mais c'est notre réponse.
Pascal Lenné.
Non, je trouve tout ce que vous me dites très intéressant. Évidemment, ça pose aussi d'autres questions. Oui. Par exemple, si je voulais pinailler un petit peu, je me demanderais si on peut considérer que le piano est à l'interprétation. Ce que vous entendez par forme est à l'œuvre. Je crois que c'est pas la peine d'entrer
non,
dans
non.
ce genre de.
Oh, j'ai pris une image, une comparaison qui n'est pas en effet.
Maintenant, là, je me fais en quelque sorte l'avocat du diable. Je joue un rôle qui au fond ne vient pas du fond de moi-même puisque je me sens très proche, au moins par les désirs et par l'admiration de Loulipo.
Et même dans quelques réalisations que je vois dans la dentelière.
C'est gentil de
quelques
le dire.
Quelques passages que vous connaissez.
Mais au fond, je crois que c'est Valéry. J'ai pas le talent de citation. Je crois que c'est Valéry qui parlait des exquises contraintes.
Oui, c'est ça. Oui.
Et qui donc considérait du même coup que la contrainte formelle est en quelque sorte fructueuse dans certains cas. Évidemment, si elle est en présence d'un talent capable de surmonter et d'en tirer profit. Alors, est-ce que Loulipo, c'est quand même pas autre chose que cela? Il y a de cela, certainement,
mais c'est
peut-être autre chose. Moi, je ne sais pas, j'ai le sentiment quand même que c'est autre chose. Et j'ai le sentiment que l'ambition de Loulipo, au fond, est très grande, et j'ai un peu l'impression que vous n'osez pas le dire. J'ai l'impression que dans les travaux de Loulipo, il y a même le désir et l'ambition de créer des formes qui soient des matrices, en réalité, qui soient productrices.
Absolument.
Et pas seulement des contenants.
Absolument, mais quand vous dites des matrices, eh bien de ces matrices peuvent sortir aussi bien des œuvres de haute inspiration, elles peuvent fonctionner ou comme matrice ou comme contenant. Prenez par exemple une forme dont on aurait pu penser quand elle a été inventée qu'elle ne donnerait jamais lieu à de grandes œuvres, l'acrostiche. Moi, je me souviens avoir mis les noms de tous mes profs de lycée sous forme d'acrostiche dans des poèmes, bon, qui sont malheureusement perdus à jamais. Voilà le sort d'une contrainte même à la fois acrobatique et peut-être un peu puérile, l'acrostiche. Tout de même, Villon a fait des balades en l'acrostiche, qui sont des balades de Villon comme les autres balades de Villon. De sorte, je crois qu'on ne peut pas savoir notre ambition. Finalement, vous posez le problème de notre ambition, elle est de donner des possibilités dont se serviront, suivant leur talent, suivant leur génie, suivant leur inspiration, des écrivains. Autrement dit, eh bien, il pourrait y avoir des petits poèmes en acrostiche, des vers de Mirliton, ou bien du Villon. Autre acrostiche, encore d'ailleurs, des psaumes, il y a des psaumes de David en acrostiche. Autrement dit, quand nous imaginons une contrainte, Nous avons un certain espoir qu'elle puisse servir par la suite à de grandes choses, qu'elle puisse en effet se mouler sur des inspirations de haute qualité. Mais ça nous échappe à ce moment-là. L'inventeur, je ne sais pas, du sonnet, c'est, je reprends l'exemple, ou la contre-rime, un exemple plus récent. On ne peut pas, à mon avis, nous ne cherchons pas à répondre à votre question d'une manière précise. Nous voulons laisser le problème ouvert. Espérons que on s'y engouffrera plutôt dans le bon sens.
Pascal Lenné.
Je vous posais encore une question ambiguë. En faisant référence à la musique, parce que fond, tout ce que vous me dites vaut, à mon avis, largement pour la musique et depuis toujours. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la création musicale est étroitement subordonnée à la création de formes. À ceci près toutefois, c'est que, je ne suis pas un spécialiste bien entendu de l'histoire de la musique, mais il me semble qu'on peut considérer que la création de l'œuvre et en même temps la mise au point d'une forme, par exemple la forme sonate, la forme symphonie, sont à peu près contemporaines et se font dans un processus assez lent et assez empirique. Et on a l'impression que justement la mise au point d'une forme passe par le génie individuel de tel ou tel créateur. On attribue en général, je ne me trompe, la création de la forme symphonie dans son état le plus élaboré à Haydn, par exemple. Je crois qu'il y a là quelque chose qui pourrait servir de modèle aux travaux de Oulipo et qui en même temps peut-être a priori les dévalue, puisque Oulipo, si je ne me trompe, est une recherche de structure ou de forme avant la création et pour la création.
François Le Lyonnais.
Exactement. Je crois que vous me posez une question doublement bonne, parce que vous allez me permettre de parler d'une des valeurs de X dans le mot Oulipo. L'une des valeurs de X, ça peut être musique. À côté de Oulipo, qui a 16 ans, il y a l'Oumupo. L'Oumupo qui est un peu fantôme, mais qui a commencé à battre un peu de l'aile avec Filippo, forcément, pour des questions de rime. Et on pourrait aussi parler de Loupinpo, peint pour peinture, et même de l'Oulipopo pour le roman policier, mais je propose de laisser l'Oulipopo de côté momentanément. Eh bien, effectivement, le problème des formes musicales est à comparer avec celui des formes littéraires, avec une très grande différence. C'est que dans la forme musicale, vous avez à combiner des sons, c'est-à-dire des unités, des atomes, beaucoup plus simples, se prêtant beaucoup mieux à des combinaisons quasi automatiques, à une combinatoire, que la combinaison des couleurs ou des formes dans la peinture, et encore plus la combinaison des idées, des sentiments, de tout ce qui fait la littérature.
Je suis pas entièrement d'accord avec vous sur cette notion de simplicité, puisque vous avez la musique, vous savez, vous avez la mélodie, l'harmonie, le rythme, le timbre, les timbres, lorsqu'il s'agit d'une œuvre symphonique.
Mais qu'est-ce que tout cela, à côté du verbe, du substantif, de l'adjectif, des mots, la signification des mots, trouvez-moi un timbre, aussi riche que ce soit, mais ça n'apportera pas avec soi une richesse aussi grande que la plupart des mots, enfin que les substantifs, les verbes ou les adjectifs que j'ai éliminé de certains exercices.
Oui, effectivement, je suis de mauvaise foi, en réalité, je le reconnais, parce que dans l'ordre littéraire, il est évident qu'on joue bien davantage sur le plan du signifiant que dans l'ordre musical, là, on pourrait certainement gloser assez longtemps sur cette question.
Oui, moi j'en doute dans le cas de l'Oumupo. Je vais vous donner un exercice auquel on travaille en ce moment, mais qui est beaucoup plus facile à réaliser et avec une plus grande qualité que ce que nous avons fait à l'Oulipo, et parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire de l'Oulipo que de l'Oumupo. C'est l'idée suivante. Vous avez du papier réglé, du papier musical, avec des portées, mais transparent. Vous en prenez une feuille et vous mettez dessus un allegro de sonate ou un presto de sonate, d'une sonate existante, par exemple. Sur une autre feuille, un autre allegro d'une autre sonate. Vous les superposez les deux feuilles et il y aura des notes qui vont tomber les unes sur les autres exactement, les autres pas. Celles qui tombent les unes sur les autres, ça doit pouvoir faire un bel adagio de sonate. Je dis bien un bel adagio de sonate. Eh bien, Bach en aurait fait comme il aurait voulu. C'est plus facile à faire.
Ça l'a peut-être fait.
Oh, c'est beaucoup plus facile à faire que le contrepoint à huit voix que Bach a réalisé. Et cependant, c'est quelque chose de très différent, ce que je propose. Même dans le cas de la peinture, on a plus de facilité. Alors là, je crois que nous en rendons compte en cherchant à réaliser. Voyez par exemple ces 100 000 milliards de poèmes que je montrais tout à l'heure. Eh bien, ça n'est pas seulement des combinaisons qui respectent d'abord la structure du sonnet, qui respectent la rime. C'est et ça n'est pas non plus des cadavres exquis. Nous tenons beaucoup à l'Oulipo à nous séparer, si vous voulez, du surréalisme. Il n'y a pas de surréaliste à l'Oulipo. Non seulement ça conserve la structure du sonnet et les rimes, et ça conserve aussi l'enchaînement grammatical, ce qui fait que ce n'est pas du cadavre exquis, et vous conservez également, dans une certaine mesure, une certaine atmosphère de la pensée de Queneau. Eh bien, faites la même chose avec la musique. Avec la musique, c'est beaucoup plus facile.
Oui, je pense, oui.
Oui, mais avec cela, je trouve que ça tourne de force autrement plus difficile.
Pour composer ces 10 sonnets, il m'a fallu obéir aux règles suivantes. Premièrement, les rimes ne devaient pas être trop banales, pour éviter platitude et monotonie, ni non plus trop rare ou unique, 11, 11, 11, par exemple. Il était nécessaire d'avoir dans les quatrains au moins 40 mots différents et dans les tercets 20. Il eût été d'ailleurs sans importance que de mêmes mots se trouvassent à la rime au même vers, puisqu'on ne les lit pas en même temps. Je me suis permis cette licence que pour beau substantif et anglicisme et beau adjectif. Deuxièmement, chaque sonnet devait, sinon être parfaitement translucide, du moins avoir un thème et une continuité. Sinon, les 10 puissance 14 moins 10 n'auraient pas eu le même charme. Troisièmement, la structure grammaticale, enfin, devait être la même et demeurer invariante pour chaque substitution de vers. Une solution simple aurait été que chaque vers formât une proposition principale. Je ne me suis permis cette facilité que dans le sonnet numéro 10, le dernier. J'ai veillé également à ce qu'il n'y eut pas de désaccord de féminin à masculin ou de singulier à pluriel, d'un vers à l'autre dans les différents sonnets. Les choses étant ainsi données, chaque vers étant placé sur un volet, il est facile de voir que le lecteur peut composer 10 puissance 14 sonnets différents, soit 100 000 milliards. Pour être plus explicite pour les personnes sceptiques, à chaque premier vers, au nombre de 10, on peut faire correspondre 10 seconds vers différents. Il y a donc 100 combinaisons différentes des deux premiers vers. En y joignant le troisième, il y en aura 1000. Et pour les 10 sonnets complets de 14 vers, on a donc bien le résultat énoncé plus haut.
Je vous rappelle que le titre donné à ce dialogue entre Pascal Lenné et François Le Lyonnais, président fondateur de l'Oulipo, est Oulipo et Ouxpo. Oulipo, je le répète, ouvroir de littérature potentielle.
Tout à l'heure, je vous parlais des records. Je crois qu'il vaudrait la peine d'en dire quelques mots. Parce que c'est l'un des secteurs de l'Oulipo sur lequel nous avons rencontré pas mal de contestations. Les records, eh bien, nous avons par exemple ce livre très extraordinaire, que j'espère que tout le monde le connaît dans cette salle, sinon il faut vous précipiter pour vous le procurer. C'est en tout cas un roman qui peut se lire comme un roman moderne, c'est-à-dire, c'est dans l'écriture moderne, c'est pas toujours très très compréhensible, mais en gros quand même, on comprend un roman moderne. On le lit bien, ça se lit un peu comme un roman policier, d'ailleurs le titre, La disparition, suggère que ce soit un roman policier, et on peut arriver jusqu'au bout, comme certains critiques d'ailleurs, littéraires, y sont arrivés, sans s'apercevoir que dans tout ce gros volume, il n'y a pas une seule fois la lettre E. Eh bien, ça c'est un record, un record particulier, c'est le lipogramme qui existait depuis de la plus haute antiquité. Seulement, l'Oulipo par conséquent n'a pas de raison de refaire ce qui a déjà été fait, même si c'est bien. On peut le faire en tant qu'écrivain, mais pas en tant qu'oulipien. Seulement, porter ce record à ce niveau-là, c'est le plus grand lipogramme de la littérature mondiale, c'est quelque chose que nous apprécions. Et d'une manière générale, tout ce qui bat un record, même sur le plan de l'acrobatie, encore est-il que dans les œuvres visant les records, on peut trouver une qualité aussi, une émotion littéraire.
Je crois aussi que le même Georges Perec a écrit le plus long palindrome, il me semble.
Il a écrit le plus long palindrome du monde, effectivement. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que dans ce que fait, par exemple, Perec, dans ce que font d'ailleurs tous les membres de l'Oulipo, même lorsque nous faisons de l'acrobatie, nous tâchons, ce sont des écrivains qui le font. Ils tâchent d'y mettre un certain contenu littéraire. Je voudrais signaler un genre très différent encore d'un autre de nos membres, que vous connaissez bien, c'est Jacques Roubaud. Vous voyez ici des petits volumes d'un format très particulier, c'est le format de la bibliothèque oulipienne. Le numéro 2 de Jacques Roubaud est intitulé « La princesse Hopi ou le conte du Labrador ». Je ne pourrais pas vous le raconter. Mais c'est l'histoire, si vous voulez, d'une princesse qui avait un chien, quatre oncles, et ses oncles étaient des rois. Et toute l'histoire se déroule un peu comme dans un conte de fées un peu farfelu. De ces quatre rois, il y en a trois qui complotent contre le quatrième, et il y a toutes les combinaisons possibles de trois rois qui complotent contre le quatrième, et ça se déroule ainsi, puis il y a aussi les reines qui font de la compote à trois pour la quatrième, et derrière tout cela, vous avez une structure mathématique. Roubaud, je le rappelle, est mathématicien et professeur d'université. Vous avez une structure mathématique qui est ce qu'on appelle une structure de groupe de Klein. Eh bien, il a trouvé le moyen d'avoir une contrainte très forte et très, très difficile et de faire quelque chose qui est poétiquement délicieux, tout au moins, c'est mon avis.
Pascal Lainé.
On pourrait peut-être récapituler maintenant les principales notions là, de notre propos, parce que vous avez parlé un instant d'acrobatie.
Oui.
Le chose qu'il faut essayer de coller ensemble, au fond. Autrement, ça n'est peut-être pas entièrement satisfaisant pour l'esprit. Acrobatie, systématique, ambition scientifique.
D'accord. Eh bien, je crois que il faudrait d'abord indiquer notre position sur certaines libertés ou certaines contraintes. L'aléatoire, le hasard, l'Oulipo est fermement opposé au hasard. Non pas une petite injection de hasard, bien sûr, mais dominé, maîtrisé, utilisé convenablement. Ce n'est pas le hasard qui sera l'élément principal. Non plus l'automatisme. L'automatisme complet. Nous estimons qu'on ne peut pas faire de la littérature complètement sur ordinateur, mais on peut s'aider de l'ordinateur, bien entendu, et avoir une littérature partiellement, avoir des textes partiellement également automatiques. Quoi encore pour résumer nos principes ? Pour être un oulipien, on peut l'être déjà, en partant d'une structure connue. Ben, nous avons parlé du lipogramme, par exemple, et d'autres structures connues. On peut partir, comme Raymond Queneau l'a fait, de sonnets. On peut donc partir de structures connues, mais à condition de les modifier suffisamment pour en faire de nouvelles structures. On peut donc injecter du hasard ou de l'automatisme, mais ce qui est vraiment le fond de la vocation de l'Oulipo, c'est de créer des structures complètement neuves. Je pourrais vous donner, par exemple, un exemple d'une de ces structures que vous ne trouveriez pas, je crois, ailleurs dans la littérature. C'est, et je reviens encore à Raymond Queneau, c'est la relation X prend Y pour Z. Il parle en mathématicien. Eh bien, X est une personne, Y une autre personne, et Z une troisième personne. Et on peut schématiser différents cas de la manière suivante. La situation avec trois personnes, c'est que A se prend pour lui-même, B se prend pour lui-même et C se prend pour lui-même. Bon. La situation du vaudeville, chacun se prend pour soi et se trompe sur l'identité des deux autres. La situation des sosies, A confond les sosies B et C. La situation oedipienne, alors vous avez le fils de Jocaste, Oedipe, Jocaste, et si j'avais un tableau, vous verriez, je serais forcé de vous faire une figure assez compliquée. La distraction du savant Cosinus, vous avez le dentiste, Cosinus chez lui, Cosinus chez le dentiste, Madame Bellazor et Madame X. Vous avez l'asile de fous, trois fous se prennent pour Napoléon.
Vous avez le roman feu. Une seconde, parce que je trouve quand même assez savoureux qu'on puisse considérer la situation oedipienne comme un cas particulier d'une règle, dont un autre cas particulier est la situation de vaudeville.
Ah, absolument. Oui. Et c'est l'un des intérêts aussi. Alors, un intérêt analytique, si vous voulez, de l'Oulipo. Essentiellement, l'Oulipo se présente comme avec une vocation de synthèse. Mais là aussi, il a quand même un goût pour l'analyse, et on peut faire des synthèses à partir de certaines analyses, et que nous avons notamment mis en évidence des structures analogues. Autre type de structure qui n'avait pas, je crois, son équivalent, c'est la structure arborescente, qui a donné lieu à un conte à votre façon de Queneau, et un roman policier qui est en train d'être écrit en ce moment par Michel Lebrun, sur le principe suivant. Vous commencez à ouvrir votre livre, vous avez le début du roman policier, on s'arrête au bout d'une page. On demande au lecteur, préférez-vous le type, le roman policier à énigme suite page temps, le roman policier à suspense suite page temps, érotique suite page temps, etc. Vous avez choisi par exemple l'énigme, vous allez à la page, vous avez encore la suite. On vous demande, voulez-vous un alibi parfait suite à telle page, un meurtre en chambre close, etc. La littérature en arbre a donné également naissance à une pièce de théâtre de Paul Fournel, qui est l'un de nos deux secrétaires généraux, pièce qui n'a pas encore été jouée, mais qu'il est question de monter, l'année prochaine en tout cas, au Centre Pompidou. Voilà en tout cas des structures nouvelles.
Mais il y a effectivement, et parmi toutes les impressions qu'on peut ressentir dans vos propos et à la lecture des textes oulipiens, on a l'impression, au fond, d'une certaine désinvolture.
Je pense bien.
D'une désinvolture en face, au fond, de la très grande richesse des possibilités du langage, ou plus précisément de la création littéraire. Et lorsque, par exemple, dans la structure arborescente, on a le choix entre plusieurs solutions, entre plusieurs trajectoires, et elles se dévaluent peut-être les unes les autres, dans la mesure où elles sont relatives, elles sont plusieurs, elles sont nombreuses. Oui. Alors, je pense au pauvre écrivain qui se donne un mal fou pour raconter une seule histoire, qui croit dur comme fer, au moins le temps qu'il la raconte, si toutefois c'est vraiment le travail d'un écrivain que de raconter une histoire, et là-dessus il faudrait peut-être réfléchir aussi.
Il y a aussi le poète à côté du romancier,
Celui qui est univoque, qui travaille dans une direction pauvrement unique, se sent un petit peu mis en question par ce genre de travaux.
À coup sûr. Ben voilà, effectivement, l'Oulipo est multivoque. Eh bien, l'Oulipo ne prétend pas déboucher dans toutes les formes littéraires, dans toutes les activités littéraires, ni dans toutes les vocations littéraires. Effectivement, c'est une direction qui peut plaire à certains et pas à d'autres. C'est comme si vous me disiez, mais les musiciens ne trouvent pas beaucoup de plaisir musical dans les poèmes, ou les peintres dans la musique. Il y a une conception de la littérature qui ne prétend pas être totale, être globale, mais qui est valable pour un certain nombre d'œuvres.
C'est quand même, vous dites qu'il ne prétend pas être global, c'est tout de même à cela que tend l'Oulipo. Ou plutôt qu'il donne l'impression de venir.
Ce n'est qu'une impression.
On a l'impression.
Nous ne prétendons pas industrialiser toute création littéraire. Nous pensons qu'il est possible de se diriger dans cette direction. Ça vous nous attribuez des très grandes ambitions pour notre propos, mais nous acceptons la coexistence pacifique.
Il y a dans certaines écoles ou certaines chapelles actuelles, modernes, des ambitions cachées, plus ou moins d'ailleurs, et certainement aussi grandes. Alors là-dessus, c'est pas une critique.
Non,
c'est l'air du temps. Et je suis frappé au fait, par le modernisme de l'Oulipo. Enfin, c'est vraiment un truisme que de dire
oui,
ça.
Oui, c'est
ça
sûr.
Vaut peut-être la peine qu'on en parle quand même. Il y a, à mon avis, de l'Oulipo par rapport au langage, une position qui me paraît assez moderne, justement, et très différente de celle, par exemple, des écrivains du Moyen-Âge. Je me réfère aux écrivains du Moyen-Âge parce que ce sont également de grands inventeurs de formes, de grands amateurs de difficultés ou même d'acrobaties. Vous nous avez donné quelques exemples tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de fondamentalement différent entre les uns et les autres.
Eux, c'est l'artisanat et nous, c'est l'industrie.
Oui, c'est l'industrie qui repose, et là j'en reviens à cette ambition, sur un fondement scientifique. C'est la révolution industrielle en matière de création artistique. J'emploie tout cela, évidemment, entre guillemets, et avec un sourire répondant aux multiples vôtres, bien entendu. Voilà. Mais je veux dire que il y a quand même quelque chose de sérieux là-dedans. Il y a quand même un renversement de point de vue qui me paraît très sérieux et très important. C'est qu'on a tendance maintenant, et pas seulement l'Oulipo, mais l'Oulipo en est une excellente illustration, je crois, à considérer le langage comme un donné, un peu comme une nature, qu'il s'agirait d'explorer, de découvrir, d'analyser, et dont il s'agirait de tirer les forces, un petit peu comme un barrage est destiné à tirer les forces naturelles d'une chute d'eau. Eh bien, le langage serait non plus la création artisanale du poète qui crée sa propre langue, son propre style, mais un donné, une nature donnée à l'avance, qu'il s'agirait simplement d'explorer et d'exploiter. Est-ce que je me trompe ou est-ce que...
Non, je suis assez de cet avis. Quand j'ai moi-même prononcé le mot industriel pour l'opposer à artisanal, c'est plutôt scientifique qu'industriel qui conviendrait. Ou peut-être technique, mais pas dans le sens le plus utilitaire du mot technique, dans le sens de la grande invention. Eh bien, je crois en effet que nous voudrions donner les possibilités d'exploration systématique, et pas seulement du langage, justement, mais des idées, des inspirations. Ça va beaucoup loin, c'est beaucoup plus ambitieux que la seule exploration du langage. Effectivement, nous voulons donner ces possibilités d'exploration systématique, à charge à l'écrivain de se servir des possibilités qui conviennent le mieux à ce qu'il a envie de dire, à son récit ou à l'expression de ses émotions. Finalement, je ne sais pas si on peut appeler ça une contestation, mais cette remarque que vous faites, je crois qu'on a dû la faire il y a très longtemps. Lorsqu'on a inventé le langage parlé, auparavant, voyons, il s'agissait de dire à une femme qu'on l'aimait. Bon, on pouvait le dire sans parole, avec des gestes, des cris, etc. On a dû dire, ça y est, voilà, vous industrialisez l'amour, n'est-ce pas? Et puis, avant le langage...
Ça se complique.
Oui. Avant le langage parlé, mais il y a eu même le langage tout court. Au fond, le fait de mettre... d'une certaine dose d'abstraction, de sentiment de l'abstraction dans tout ce que l'on fait. Je crois que c'est la caractéristique, pas seulement de la modernité, mais de l'esprit de science.
Oui, mais l'important pour moi, c'est peut-être pas simplement cela. Vous avez employé à plusieurs reprises le mot « explorer », et je crois que cela caractérise assez bien votre attitude face au langage.
Oui.
Et je reviens, je me répète, excusez-moi, il y a dans votre position par rapport au langage quelque chose qui le laisse entendre, qui le laisse appréhender comme un donné, encore une fois, comme une nature. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toute la littérature est en quelque sorte déjà donnée virtuellement, et que l'écrivain n'est pas tant un créateur que celui qui réalise ce qui était virtuel jusque-là.
Vieille question qui a été reprise par Chomsky, par exemple. Alors, la question quand même est un peu plus large. Je pense qu'en un moment donné, et pour un court temps, le langage ne se transforme pas à une vitesse héraclitéenne. Je pense qu'il reste un peu semblable à lui-même pendant quelque temps. Et l'un des rôles de l'écrivain, c'est justement de changer le langage. Mais quand le langage sera changé, d'autres explorations scientifiques deviendront possibles.
Je vais employer une image sud-américaine, si vous voulez. J'ai l'impression que l'écrivain se comporte un petit peu comme un compilateur de la bibliothèque de Babel, où tout est écrit, tout ce qui est de l'ordre du langage qui existe, écrit, Mais personne n'en a fait le tour. Et l'écrivain, c'est celui qui explore un petit coin de cette bibliothèque, un petit rayon de la bibliothèque, et qui transcrit, en quelque sorte, qui rend visible ce qui jusque-là était virtuel. Et puis là, il y a devant nous les fameux 100 000 milliards de poèmes que personne n'a lus en entier, bien entendu, et qui sont là.
En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'un million de siècles de lecture. Et en lisant toute la journée, 361 jours par an, pour 190 258 751 années, plus quelques plombes et broquilles, sans tenir compte des années bissextiles et autres détails.
Il faudrait quelques milliers de siècles, effectivement.
Et théoriquement, on pourrait les lire.
Oui, oui.
Et on a l'impression, là, justement, c'est une espèce de métaphore de ce que je suis en train de vous dire,
oui,
et peut-être de la position de l'écrivain oulipien. Il s'agit pour lui de mettre à jour, en quelque sorte, un petit peu comme on met à jour les ressources naturelles,
oui,
je reviens encore à cette métaphore, du sous-sol,
oui.
Ce qui est là et qui nous attend.
Mais je crois que dans une certaine mesure, c'est le contraire qui est vrai.
Ah.
Parce que vous me parlez de l'écrivain oulipien, mais justement, l'oulipien peut ne pas être un écrivain, ne jamais rien écrire, ne jamais faire d'œuvre. L'oulipien pur fera des structures et laissera à des écrivains, utilisant ces structures, le soin de faire cette exploration, comme vous le dites. Je crois que c'est ce que font les écrivains, c'est ce que faisaient les écrivains avant l'Oulipo, s'ils continueront à faire après. Quand il y a une école littéraire, qu'est-ce qu'on fait? C'est de se répéter tous les uns les autres. Le Comte de Lille, Baudelaire, Hérédia, etc. Tout le monde fait la même chose. Ou bien, peu importe, ça peut être aussi bien l'école des impressionnistes. Monet arrive, il apporte sa vision, qui est nouvelle. Et là-dessus, les Sisley, les Pissarro, etc., l'art nouvelle. Prenez n'importe quel écrivain qui a réussi. Que lui demande son éditeur? Il lui demande de recommencer la même chose avec quelques variantes. Or, ce que nous voulons faire à l'Oulipo, c'est pas du tout des œuvres oulipiennes. La véritable oulipienne, c'est la structure.
Oui.
Et si cette structure est neuve, elle est un langage nouveau. Elle est quelque chose de changé, au contraire. Que viennent des écrivains, qu'ils les prennent, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, qu'ils explorent. Nous créons une nouvelle bibliothèque de Babel, chaque fois que la structure est bonne, en tout cas. Et au fond, je pense que vous ne dissociez pas suffisamment.
Si je m'explique bien sur ma métaphore, en créant une nouvelle structure, on ne crée pas une nouvelle bibliothèque, simplement on ouvre un nouveau rayonnage, on ouvre une nouvelle salle. Mais elle était déjà là.
Ah, je ne crois pas.
Écoutez,
absolument,
je vais m'expliquer peut-être d'une façon plus complète. Oui. J'ai le sentiment que, à une certaine époque, je ne dirais pas laquelle, dans mon fort intérieur, c'est probablement la fin du 19e siècle, quand on parlait de Baudelaire, par exemple.
Oui.
Il y a, chez les écrivains, une prise de conscience qui était jusque-là certainement virtuelle, simplement, qui n'était pas faite, qui n'était pas opérée, du caractère contraignant du langage, en général, pas simplement de la forme littéraire, de la forme poétique, mais du langage dans son ensemble. On s'aperçoit à un moment donné que le langage, alimenté par des siècles de culture, de création littéraire, est un donné et qu'il nous contraint. C'est-à-dire que, à partir d'une certaine époque, je crois que l'écrivain n'est plus naïf. L'écrivain ne peut pas se considérer comme un commencement de quoi que ce soit.
Voilà.
Il survient sur une tradition. Il est malheureusement l'héritier de beaucoup trop de choses, peut-être.
Oui.
Et je crois qu'à ce moment-là s'ouvre ou s'inaugure une crise que nous vivons encore et que nous vivrons peut-être dorénavant toujours.
C'est possible.
Et il y a déjà cela dans l'Oulipo, à mon avis. Il y a cette prise de conscience, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises, et vous ne m'avez pas démenti, au fond.
Absolument pas.
Du langage, ou, disons, de l'énorme crassier culturel qui est devant nous, comme quelque chose contre lequel nous ne pouvons rien.
Oui, c'est sûr.
Il y a autre chose, à mon avis, en outre, dans l'Oulipo, et que vous êtes en train de défendre, mais que je ne mets surtout pas en question, je ne mets pas en cause, c'est le caractère créateur, le caractère productif, et la recherche de nouvelles structures, et peut-être Est-ce là aussi un autre signe de cette crise de la culture et de la création littéraire, cette espèce de pléthore, de trop grande richesse dans laquelle nous sommes, cette espèce d'angoisse de la répétition, l'angoisse du déjà fait, le sentiment d'avoir fait le tour peut-être de tout ce qui était possible, et qui nous amène à non seulement à sortir des sentiers battus, trop battus, mais à ouvrir des sentiers?
Voilà, mais c'est exactement notre vue. Alors là, nous tombons bien d'accord. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne devrait pas parler d'écrivain oulipien. L'écrivain oulipien, c'est comme si on parlait de l'écrivain blond, ou de l'écrivain chauve, ou de l'écrivain petit. On peut être oulipien sans être écrivain, et écrivain sans être oulipien. On peut être les deux, voilà tout. Nous cherchons des structures nouvelles. Bon, celles que nous avons trouvées ne sont pas toutes, qui n'ont pas toutes le même degré d'originalité et de novation, c'est sûr. Mais ce que nous visons, c'est précisément, comme vous le disiez, de changer le langage. Et sur ces changements de langage viendront d'autres types de structures même. Au fond, nous pourrions espérer même changer les structures de structures, les types de structures. Les mobiles, nous ne l'avons pas encore fait maintenant, nous n'avons que 16 siècles d'existence. Donnez-nous encore quelques centaines de siècles et nous arriverons peut-être à faire de plus grandes choses. Mais c'est bien notre ambition, en tout cas, c'est de changer profondément le langage, si vous voulez, et plus que le langage, puisque nous voulons changer les rapports de signification, les rapports sémantiques, qui dépassent par conséquent de beaucoup l'écriture, par exemple. Alors, je crois qu'il faut rayer de notre vocabulaire l'expression écrivain oulipien. Accepter qu'elle existe, mais comme la rencontre de deux choses fort différentes.
Oui, mais c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus.
En ce qui me concerne, par exemple, ce sont les structures plus que les œuvres qu'on fait avec ces structures.
Je vous pose quand même la question.
Oui.
Si ça ne débouche pas sur l'écriture.
Ah, plus que l'écriture, même l'inspiration.
Oui.
Ah oui, enfin.
Donc, au bout de l'Oulipo, il y a quand même un écrivain.
Mais pas forcément oulipien. Si mais c'est pas celui qui a inventé la structure qui fera la meilleure œuvre.
Mettons que la poule vienne de l'œuf, si vous voulez.
Oui. Comme vous voudrez. Je crois que ce n'est pas celui qui a inventé la structure qui fera forcément la meilleure œuvre dans cette structure.
Mais néanmoins, je retiens ce que vous dites parce que je crois que c'est quand même intéressant.
Mais oui.
Le créateur du structure, l'oulipien, peut ne pas être le même individu, le même personnage que l'écrivain. Et, différence me paraît être faite, et vous allez me dire si je me trompe, sur le modèle, par exemple, de l'homme de science, du fondamentaliste,
oui.
Et du technicien, de l'ingénieur.
Très
c'est
exactement.
Ça que vous voulez dire.
Très exactement.
Et cela revient, au fond, à mettre encore un peu plus d'eau au moulin de la scientificité, si je peux employer
ce mot. Oui, exactement, mais pas de la technicité.
Ben vous êtes apparemment du côté de la science fondamentale.
Oh, absolument, oui.
Oui. Moi, je suis le modeste technicien, en l'occurrence. Et la question pour quelqu'un que moi, c'est simplement de savoir ce que l'on peut faire avec cela. Ce que l'on peut en faire pratiquement. Ce qui peut résulter.
Alors, nous avons apporté, par exemple, quelques structures, mais il y en aura d'autres. Et ce que nous étudions en ce moment, ce qui apparaîtra probablement dans un nouveau manifeste en préparation, c'est de nous préoccuper de la mesure de l'efficacité, de la qualité et des promesses d'une structure nouvelle. Ce qui nous permettrait à ce moment-là, avant de lancer une structure, de nous assurer peut-être des promesses qu'elle peut tenir.
Je vais vous faire une plaisanterie facile. Oui. Vous ferez aussi des études de marché, éventuellement.
Non, nous ferons des études de qualité.
Oui.
C'est pas la même chose. Enfin, si l'étude de qualité, c'est peut-être une étude de marché.
Parce que la question se pose aussi, justement, puisque nous avons dissocié maintenant celui qui, dire, qui lance le produit et celui qui l'utilise. Il s'agit de savoir si, par exemple, telle structure récemment créée répond à un besoin, je veux dire.
Voilà. Alors ça, nous ne pouvons vraiment pas le savoir à l'avance. Et je reprends cette comparaison qui me paraît même très éclairante, finalement, d'étude de marché. Nous parlons en ce moment à la radio. Ça s'adresse à beaucoup d'auditeurs. Il y a un marché d'auditeurs. Qui a fait l'étude de ce marché? D'où sortent ces ondes de radio? Elles sortent des recherches d'un physicien anglais du 19e siècle qui s'appelait Faraday. Bon, il étudiait de la manière dont la lumière se réfléchit sur un aimant. Ça n'ouvrait pas la porte à un marché, car ça ne servait à rien. Après lui est venu son élève, Maxwell, qui a élargi les découvertes relative au rapport de la lumière et de l'électricité. Il a fait des très très belles choses et ça n'a servi absolument à rien. Ça n'est débouché sur aucun marché. mais l'élève de Maxwell a fait des travaux parfaitement inutiles. C'est, il s'appelait Hertz. Il en est sorti les ondes hertziennes. Quand on a demandé à Hertz, à quoi croyez-vous que serviront les ondes qui ont votre nom? Oh, il a dit, je crois que ça ne servira à rien. Est-ce que vous direz que Hertz a fait une étude de marché compte tenu de la diffusion actuelle des ondes de radio?
Pascal Lainé et François Le Lyonnais vont maintenant répondre aux questions du public qui, je pense, seront assez nombreuses car tout n'a sûrement pas été dit sur l'Oulipo et toutes les potentialités de l'Oulipo. Monsieur.
Je pense répondre un petit peu à une question, plutôt qu'en poser une, qu'a posée Pascal Lainé et à laquelle François Le Lyonnais n'a pas répondu, peut-être certainement par modestie. C'est qu'en effet, je crois que l'Oulipo a une ambition, disons, globale et totalisante, qui se manifeste en particulier par un travail récent de Raymond Queneau, que nous appelons la table de Kenelayev. Et en effet, dans cette table que voit-on, on voit un classement et une organisation d'un grand nombre des structures qui ont été proposées par l'Oulipo. Alors en effet, ces structures nouvelles, ces systèmes de contraintes, peuvent être intégrés dans une organisation plusieurs dimensions dans lesquelles interviennent les lettres, les mots, les paragraphes, les chapitres, etc., dans un ordre ascendant, et puis d'autres contraintes, celles qui sont d'ordre numérique, celles qui sont d'ordre de relations d'ordre, d'autres relations plus mathématiques, etc. Alors je pense qu'effectivement, il y a un aspect qu'on pourrait appeler peut-être métalittéraire dans l'Oulipo, qui le fait s'intéresser non pas seulement à créer des structures pour des littératures, mais aussi à dégager une espèce de superstructure ou de structure générale qui permet d'englober, de classer les structures existantes et, comme ce fut le cas en chimie avec la table de Mendeleïev, de prévoir des structures nouvelles, des systèmes de contraintes qui n'ont pas encore été inventés en regardant dans les trous qui existent encore sur la table de Kenelayev.
Merci. Pascal Lainé, vous avez quelque chose à ajouter.
Justement, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut justement inventer, un petit peu comme Le Verrier, je crois, avait calculé que Neptune devait exister à tel endroit avant qu'on l'ait vu? Est-ce qu'on peut donc, à partir de ce tableau, à la manière du tableau de Mendeleïev, inventer?
Et nous en avons un exemple tout récent qui est un projet qui nous a été présenté récemment par Harry Matthews. Et l'algorithme de Matthews nous propose une technique de création littéraire, et il a été fait de telle façon qu'il puisse s'appliquer aussi bien à des lettres qu'à des mots, qu'à des phrases, qu'à des paragraphes. Donc au fond, Matthews s'est inspiré de l'analyse qui a été faite par Queneau pour prévoir cette fois-ci un algorithme littéraire qui, dès le début, ne soit pas vraiment un algorithme, mais une espèce de méta-algorithme. Et alors vous prenez cet algorithme et vous précisez l'un par un paramètre de dimension, en quelque sorte, disant, je m'intéresse au niveau alphabet, ou au contraire au niveau lexique, ou au contraire au niveau syntaxique, et vous avez automatiquement une procédure de création littéraire qui s'en déduit. Donc déjà, l'algorithme de Matthews est un exemple de super-algorithme, en quelque sorte.
Ben, je voudrais, en effet, remercier d'abord Brafort de nous avoir rappelé ce travail, mais il faut vous dire que j'en ai plein cette valise de travaux que je souhaitais pouvoir montrer, en les rendant d'ailleurs à leurs différents auteurs. Nous n'avions que 50 minutes pour nous expliquer. Eh bien, nous pouvons profiter de la demi-heure qui suit maintenant pour compléter peut-être nos idées.
Peut-être aussi donner quelques exemples.
Ça, c'est une très bonne idée. Et par exemple, on pourrait... j'aimerais citer la poésie antonymique de Marcel Benabou.
Et deux mots d'explication avant la lecture.
Eh bien, la poésie antonymique, c'est une technique de création poétique qui consiste à remplacer dans un texte chacun des mots d'un poème, par exemple, d'un poème donné, par son antonyme. Son antonyme, disons que c'est son contraire. La définition même de l'antonymie n'est pas tellement fixée ni claire. Et voici par exemple un poème. De la gueule éphémère, la gravité soucieuse allège, laide insolemment comme l'épine, le prosateur fécond qui bénit sa torpeur au sein d'une oasis fertile de bonheur. Vous avez tous reconnu, naturellement, le contraire de Mallarmé. De l'éternel azur, la sereine agonie.
De la gueule éphémère, la gravité soucieuse, allège, l'aide insolemment comme l'épine, le prosateur fécond qui bénit sa torpeur au sein d'une oasis fertile de bonheur. Immobile, œil ouvert, je la vois qui néglige. Avec l'inanité des oublis édifiants, mon corps repu. Où être ?
Où fuir ?
Et qu'à l'aube impérieuse, voler toute, voler à ce culte enivrant. Éclairs, tombez, portez vos braises chatoyantes avec de courts manteaux d'azur dessus les terres qui séchera le champ mordoré des printemps et transpercer un sol léger et séditieux.
Monsieur Lelenet, je voudrais savoir s'il y a des travaux similaires qui sont faits dans d'autres pays que la France et si dans le domaine français, on arrive à une corrélation possible entre deux langues.
Oui, à l'étranger, certainement qu'il y a des travaux qui sont comparables aux nôtres. Je crois sincèrement de ce que nous connaissons les travaux de Benze en Allemagne, de Sanguinetti en Italie, d'Emerson en Grande-Bretagne, Matthews pourrait nous en indiquer d'autres, également aux États-Unis. Un certain nombre de ces recherches vont un peu dans le même sens que nous. Mais j'ai l'impression...
Je crois que Harry Matthews pourrait peut-être donner quelques éléments de réponse sur cette question.
Effectivement. Mais j'ai l'impression que nous sommes les plus scientifiques de tous.
Est-ce que vous pourriez me dire, dans quel sens vous voulez dire mélanger les deux langues ? Vous dire faire... Trouver des structures qui...
Faire des travaux, premièrement, en d'autres langues, dans d'autres pays, et deuxièmement, en jouxtant des techniques linguistiques similaires, mais par exemple français-anglais, pour ne pas dire franglais, je veux dire...
J'ai moi-même mis au point, n'est-ce pas, un vocabulaire qui s'appelle l'égal franglais, n'est-ce pas, qui réunit les mots communs quant à leur orthographe aux deux langues, c'est-à-dire au français et à l'anglais, mais qui n'ont aucun sens commun. Pour pouvoir écrire deux textes en un seul, vous voyez l'intérêt de la chose. Au niveau du mot, n'est-ce pas, c'est évident, puisque le vocabulaire n'est que ça. Coin, n'est-ce pas, veut dire coin en français, et coin, pièce de monnaie, en anglais. Il n'y a aucune intersection au niveau du signifié entre ces deux mots, et il s'écrit pourtant exactement de la même façon. Donc il faudrait envisager une phrase qui n'est pas très difficile à imaginer, réaliser, c'est une autre chose, où ce substantif, n'est-ce pas, apparaîtrait dans les deux sens. Personne ne s'est appliqué à ça, peut-être un peu à ce problème, mais moi-même, une fois que j'avais établi le vocabulaire, je n'ai plus rien fait.
Pascal Lénier. C'est une petite remarque que j'ajoute à ce que vous dites. Est-ce que sur le plan phonétique, ce ne serait pas encore plus intéressant? Parce que là, il y a en quelque sorte une primauté donnée à l'écriture. Et là, j'aimerais faire une expérience que chacun peut faire. Aller au cinéma et voir un film en version originale dans une langue étrangère, il arrive dans une langue à laquelle, de préférence, vous ne comprenez rien, par exemple du japonais, enfin, ce qui est mon cas en tout cas, il m'arrive quelquefois d'entendre une phrase française qui veut dire certainement autre chose que...
C'est très intéressant, ça sera toujours quelque peu arbitraire. La prononciation des sons étant différente de langue, je veux dire, il n'y a pas un lieu d'équivalence comme dans l'orthographe.
De strict équivalence, non, bien sûr.
Il n'y a pas de U en anglais, par exemple.
Alors, vous connaissez la plaisanterie, vous connaissez la plaisanterie, justement, un petit bird et tout you.
Oui,
c'est cet ordre.
Et c'est monnaie courante tous les anniversaires, n'est-ce pas, à l'Oulipo.
Une autre question.
J'aurais voulu savoir, tout à l'heure, vous avez prononcé un mot qui m'a intéressé et intrigué à la fois parce que je le cerne pas bien. C'est les rapports entre pataphysique et littérature potentielle. En quoi l'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un?
Eh bien, effectivement, c'est une question qui méritait d'être élucidée. En fait, lorsque ces idées me sont venues à l'esprit, j'ai dit il y a un demi-siècle, et dans l'esprit de Queneau, la pataphysique n'existait même pas. Le collège de pataphysique a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous parlions déjà de littérature expérimentale, et non pas de littérature potentielle, Queneau et moi, pendant la guerre. Après la guerre, nous avons entrepris donc de créer ce que j'avais appelé atelier de littérature expérimentale. Mais il faut dire que Queneau est satrape du collège de pataphysique. Je n'en suis qu'un modeste régent. Et le collège de pataphysique, dont le fondateur et l'animateur est mort maintenant, Latisse, s'est tout de suite intéressé à nos travaux et a en réalité a projeté une véritable OPA sur notre atelier de littérature expérimentale. Il nous a proposé de nous rattacher comme co-commission au collège de pataphysique. Tous les membres de l'Oulipos étaient ou sont devenus de ce fait membres du collège, et ça a permis de donner une... ça s'est accordé, si vous voulez, beaucoup plus avec la teinture, je n'ose pas dire humoristique, c'est un mot qu'on n'aime pas au collège de pataphysique, mais enfin, avec le goût, avec la tournure d'esprit du collège, nous l'avons très bien adopté, aussi bien à l'ouvrage de littérature potentielle, qui a un titre qui lui était donné par le collège de pataphysique, qui en accepte une certaine terminologie, mais évidemment le caractère vraiment scientifique et mathématique de l'Oulipo lui est personnel, lui est propre. C'est donc quelque chose
de... Je suis étonné que vous n'ayez pas prononcé la phrase en ce qui concerne la pataphysique, et pour faire le rapprochement avec l'Oulipo, de « science des solutions imaginaires ».
Oui, nous c'est du réel. C'est plutôt le réel que enfin c'est le réel que nous imaginons. Oui, on pourrait le dire en effet. On pourrait aussi, je reviens sur ce que me disait Pascal Lainé au début de notre entretien, j'ai donné je crois que c'est au deuxième manifeste, j'ai mis en exergue une phrase d'un écrivain que j'aime beaucoup, un romancier de roman populaire que j'aime beaucoup, Paul Féval, qui écrivait « J'écris pour les gens qui sont intelligents avant d'être sérieux ». Je crois que ça caractérise une partie, non pas de nos recherches, car elles sont sérieuses, mais de nos réunions, disons, et de nos goûts.
Peut-être qu'on pourrait demander à un peintre s'il y a un nous pimpoïste dans la salle. Est-ce qu'il y en a ?
Eh bien, j'en vois un. Je vois Karel Mann. Et je pourrais...
Parce que vous avez été assez bref sur la question de la peinture, mais peut-être que ce serait bien qu'un peintre donne avis.
Mais j'aimerais donner un exemple de Oupimpo et passer ensuite la parole à Karel Mann.
Oui.
Le Oupimpo, c'est donc l'ouvrage de peinture potentielle qui n'est pas en formation comme l'Oumupo, qui a déjà fonctionné, mais qui est un peu enveilleuse et qui a eu des difficultés à se réunir, mais qui a quand même quelques travaux derrière lui. Si j'avais pu, je vous l'aurais apporté un exemple. J'aurais pu vous montrer un exemple de travail oupimpien. C'est l'application d'un projet que j'avais énoncé une fois, qui est la démercatorisation de la peinture. Vous allez voir, c'est tellement simple. Vous connaissez tous le problème des cartes géographiques. Les cartes géographiques représentent des morceaux de la surface terrestre, ou bien toute la surface terrestre, qui est une surface de sphère, et les représente sur un rectangle. La plupart des tableaux de peinture sont des rectangles. On transforme donc des dessins sur une surface de sphère en des dessins dans un rectangle. Je propose de faire le contraire et de remonter des rectangles de la peinture à des dessins sur des sphères qui, en projection de Mercator, donnent la même chose. J'ai chez moi, et je ne voulais pas porter, c'était un peu trop gros, un tableau d'Herbin, un peintre abstrait que vous connaissez certainement, il est mort maintenant, démercatorisé, qui est d'ailleurs un très joli Herbin sphérique. Il n'avait jamais imaginé qu'il puisse être sphérique. Voici un exemple d'Oupimpo, mais peut-être notre ami Karel Mann, qui était l'un des plus actifs dans nos réunions de l'Oupimpo, pourrait-il nous dire quelque chose ?
Mais c'est-à-dire, je regrette la disparition de l'Oupimpo. J'espère que c'est une disparition temporaire.
C'est une veilleuse, j'ai dit veilleuse.
Oui, nous sommes occultés temporairement. Mais j'envie dans un sens, j'envie les écrivains et éventuellement les musiciens qui ont à leur disposition un matériau qui est tout à fait différent du nôtre, qui est beaucoup plus ou expien, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous travaillez sur des cellules qui sont beaucoup plus faciles à travailler que nous. Parce que nous sommes obligés souvent de nous battre avec de la matière. Et vous, vous battez plutôt avec des idées ou avec des phonèmes, enfin des tas de choses. Voilà. Et on s'est aperçu au cours des quelques séances que nous avons eues que
bien souvent, nous arrivons presque à la peinture abstraite. C'est-à-dire que lorsque son tempérament vous porte à faire de la peinture plutôt figurative, le problème se complique beaucoup plus que dans le cas de l'oubli, proprement dit. Je ne sais pas si j'ai arrivé à me faire bien comprendre. Et en plus de ça, justement, vous avez un dénominateur commun qui sont les mots. C'est un code de mots. Les mots, enfin, le langage,
les
est un
idées,
code.
Les sentiments.
Alors que parmi les gens qui composaient Loupinpo en sommeil, il y avait des gens très très différents, des gens qui faisaient de l'abstrait, du figuratif, de la peinture, de la sculpture, enfin toutes les formes qui n'étaient pas réductibles à des choses combinatoires, à moins de tomber vraiment, on pouvait très rapidement tomber dans du Vasarely. Enfin, je schématise pour me faire comprendre, c'est pas cette espèce de langage décoratif.
Eh bien, c'est certainement très juste. Toutefois, je voudrais rappeler à Karelmann que, de même que je récuse la notion d'écrivain oulipien, quoi que ce soit possible, mais on peut être oulipien, fabricant de structures sans avoir jamais rien écrit, comme écrivain, et avoir écrit dans des structures trouvées proposées par l'Oulipo. De même, le peintre, tenons-nous-en à la peinture, la sculpture serait la même chose, le peintre ou peintien, c'est une contradiction. Moi, j'imagine, je me vois très bien, comme Oupimpien. Je suis l'homme le plus maladroit du monde. Même avec un compas, je ne sais pas faire un cercle rond, et avec une règle, une vraie droite. Mais je suis le type même du créateur Oupimpien.
Non, mais je me pose une autre question, finalement.
Je crée des structures et je ne cherche pas à les réaliser.
Je vais peut-être faire bondir les gens. Je me demande si, dans les arts plastiques, il existe des structures comparables à celles de la littérature.
Absolument pas.
Voilà, c'est ça le problème.
Mais il y a des structures.
Bah, vous allez me citer,
il y en a d'autres.
Quoi, la perspective italienne ou... je ne sais pas, il n'y a pas l'équivalent du sonnet.
Il n'y a pas l'équivalent, il y a d'autres structures.
C'est de là qu'est un peu apparue notre difficulté de faire
des... Il y a d'autres structures. Ce sont des structures spécifiques, sans équivalent. Les structures, pour la plupart de la littérature, sont sans équivalent en peinture et réciproquement.
Mais justement, il n'y a pas de structure en peinture.
Oh, ça c'est...
Bon, c'est une affirmation comme ça.
C'est ce qu'on me disait aussi en littérature.
Écoutez, vous avez par exemple la musique et la littérature qui sont comparables. Parce que vous avez
et
la forme sonate,
aussi.
La forme symphonique, le poème symphonique, ce sont des structures qui répondent à des formes qui sont venues, comme vous disiez tout à l'heure, par des génies qui tranquillement ont travaillé, patiemment, etc. Oui. Vous voulez un peu brûler les étapes en trouvant tout de suite les structures, mais enfin bref, elles existent ces structures, aussi bien en musique qu'en littérature. Et dans les arts plastiques, elles sont beaucoup moins visibles.
Alors, vous avez la structure abstraite, la structure figurative.
C'est pas une structure, ça.
Vous avez la composition pyramidale, vous avez la recherche, vous avez la recherche des complémentaires.
C'est pas comparable à celle que vous avez dans la littérature. Non, sur le plan des recherches.
Vous avez des structures, vous, peintres. Mais vous ne savez pas que vous avez des structures.
Ah, peut-être.
Voilà le fond de la question. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ne me demandez pas les mêmes.
Bien sûr.
Bien, alors je voudrais que vous m'expliquiez en deux mots comment j'ai pu composer un sonnet le 10 juin 1976 à 19h08min24s d'après les 100 000 milliards de sonnets de Raymond Queneau.
Ce que vous tenez en main, c'est donc l'un de ces 100
voilà.
milliards. J'en ai quelques autres ici, dont les auteurs moins glorieux que vous s'appellent Mao Tse-tung, Annie Roux, Isidore Ducasse, etc. Eh bien, c'est un exemple d'aide de l'ordinateur à la création. Comme l'a dit François Le Lyonnais, l'Oulipo n'est pas une réalisation de l'automatisme en littérature, mais naturellement, devant des contraintes souvent très fortes ou devant des problèmes combinatoires extrêmement vastes, il est impossible de tout faire à la main. Seul un homme monstrueux comme Georges Perec réussit à explorer les combinaisons les plus imbriquées avec une exhaustivité presque totale. Et c'est pour cela que nous avons utilisé un ordinateur pour réaliser quelques centaines, quelques milliers de ces 100 000 milliards de bonnets. Le hasard n'intervient pas du tout dans ce programme, et ça je crois qu'il faut le souligner parce que c'est aussi un aspect de principe à l'Oulipo. Si vous me demandiez, si vous vouliez faire un autre sonnet, vous n'obtiendriez pas le même. En effet, le choix parmi toutes les possibilités est déterminé par les lettres de votre nom, d'une part, mais aussi par l'instant même où vous faites à l'ordinateur la demande de création du sonnet. C'est-à-dire que votre nom, Roger Pillaudin, a été tapé à la machine, on a renvoyé le chariot, retour chariot, et à cet instant-là, qui est d'ailleurs en bas de votre texte, qui est indiqué en bas de votre texte, cet instant-là, ainsi que les lettres de votre nom, ont déterminé le choix des différentes lignes dans les différents sonnets de Queneau. Et si maintenant vous tapez à la machine à nouveau votre nom, vous aurez un autre sonnet.
Bien, je vais essayer de vous le lire. Voici donc un sonnet impromptu parmi les 100 000 milliards prévus par Raymond Queneau. Il se penche, il voudrait attraper sa valise pour déplaire aux profanes aussi bien qu'aux idiots. Il se penche et alors, à sa grande surprise, qui sait si le requin boulotte les turbos ? L'un et l'autre a raison, non la foule insoumise, qui, clochard devenant, jetait ses oripeaux. De la mort en vous greffe une horde bâtardise lorsqu'on voyait au loin flamber les arbrisseaux. On sèche le poisson, dorade ou molvelotte. On comptait les esprits acérés à la hotte lorsque Socrate mort passait pour un lutin. Les rapports transalpins sont-ils biunivoques ? Content et abattu, lecteur, tu te disloques. Le Beaune et le Chianti sont-ils le même vin ?
C'était « Où l'Hippo et où Expo », un dialogue proposé par Roger Pillaudin avec François Le Lyonnais et Pascal Lainé, diffusé pour la première fois sur France Culture le 31 août 1976. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.